boutique de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Brazza.
C'est donc un programme exceptionnel que je vous propose ce dimanche matin. Une émission réalisée il y a quelques jours dans la demeure même du doyen Manu Dibango en région parisienne avec quelques-uns de ses amis et proches dont certains ont bien voulu s'approcher de notre micro pour évoquer notre cher doyen. Parmi eux, les doyens Bogas, Tom Bellantone, Saleh John et Heidi, Étienne Bappé, Douleur, Patrick Boma, Eyabé Kouedi, l'inspecteur Makossa Blaise Njeoya, Valérie Bellinga, Fire Tang, entre autres. Et pour donner le la à ces instants de retrouvailles chez Papa Groove, un très grand monsieur, un fin connaisseur des mélodies du passé, qui est aussi le représentant de cette Ambass Bay, cher au cœur de notre doyen. Il s'agit évidemment de Mr. Saleh John, ou John Sal, comme aimait l'appeler son frère Manu. Ce dernier, qui fut aussi un compagnon de l'aventure Camer All Star, l'a d'ailleurs invité à de nombreuses reprises lors de ses concerts, notamment celui du Grand Rex le 17 octobre 2019 dernier. Mais avant d'écouter le propos de l'auteur des Bueco, dressons le cadre. Un jardin, celui de Champigny-sur-Marne, qui pourrait aussi être celui de Joinville à l'époque. La verdure, les fleurs, des rayons de soleil, des sourires et des rires, sans oublier de quoi ripailler et de la musique, bien sûr, Idiba. Ce dimanche en mode retrouvailles et finalement des retrouvailles que le doyen Manu aurait aimé lui-même. Et le doyen Saleh John est avec nous. Bonjour doyen.
Bonjour Brazza, bonjour auditeur d'Africa numéro 1.
Écoute, c'est vraiment une chance, je dirais même une grâce de t'avoir parce que finalement, et les auditeurs l'entendent, on a des chants, on a des bruits, on a des enfants qui courent, on a tout l'environnement que papa Manu aimait tant. On ne s'est pas vu depuis son départ vers là-haut. Je ne te demanderai pas comment tu l'as vécu parce que c'est quelque chose d'indescriptible. Mais j'ai juste envie de te demander, là, maintenant, comment est-ce que tu vis cela?
Profondément, le chagrin de la disparition du grand frère m'a remis dans une vie en cage, comme un oiseau. À cause du confinement, je ne pouvais pas sortir de chez moi à Alençon, où je vis, et m'éloigner à plus de 1000 km. J'avais des larmes aux yeux, j'avais même les yeux enfumés, parce que j'ai vu finalement l'Hitler qui savait me parler, parler aux siens. Je l'ai vu éteinte, cette étoile-là, alors qu'il était encore en train, il parle bien de Manu Dibango, de bien nous tirer, c'est-à-dire au haut de la montagne, parce que pour lui, il me disait une chose tout le temps, c'est que, ah John, c'est ce que je dis au mien, quand je trace une ligne comme ça par terre, et que tu n'arrives pas à traverser, je ne fais plus rien avec toi. Mais ceux des miens aujourd'hui que tu vois comme toi ont traversé la ligne. Mais priez seulement Dieu qu'il m'accorde une longue vie et vous allez voir. Ils n'arrêtaient jamais de nous tirer tous au haut de la montagne. Mais malheureusement, comme je dis, l'homme propose et Dieu dispose. Eh bien, Manu est parti, il nous a laissé au milieu de la montagne.
Et au milieu de la montagne, il y a quand même eu de très très belles choses quand on regarde dans le rétroviseur. Et l'une des belles choses les plus éclatantes qu'il y ait dans nos souvenirs les plus récents, c'est cette scène du Grand Rex.
Voyez-vous, comme si peut-être un ange me demandait, John prend le drapeau et dit bye bye à Manu. Puisque, presque des larmes aux yeux, des larmes de joie, quand je disais, oh Manu, merci. Grand frère, merci beaucoup. À force d'écouter ces applaudissements, j'ai dit, oh grand frère, voilà tout ça, c'est ton salaire. Oh musicien, vous voilà ce jour-là, vous êtes honoré. Manu, merci beaucoup. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je vais plus dire merci à Manu. Quand je regarde même cette vidéo, je coule des larmes. Eh bien, c'était un spectacle très, 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 très émouvant. Ouais, à Manu. Mais savez-vous, il ne nous a pas dit adieu. Parce qu'il est parti, il a glissé, on ne s'est pas vu. Mais attends, peut-être que c'était aussi le vœu qu'il demandait au Seigneur, que nous ne pouvons pas supporter la peine qu'il pouvait donner au monde entier, autant mieux partir sans bruit. Il est parti, je ne peux que supporter et continuer à travailler pour toujours monter dans cette montagne où il nous a laissé.
Le lien que vous avez, Doyen Salé John, avec Papa Manu, ce lien que vous avez avec le Mboa, avec le pays, aujourd'hui, dans cette émission, le Cameroun va nous entendre. Et le Cameroun se sent évidemment, comme beaucoup de gens sur la planète, orphelin. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui nous écoutent, de Douala, Yaoundé, en passant évidemment par toutes ces belles contrées du pays, et qui aujourd'hui ont toujours ce pincement au cœur? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les consoler d'une certaine manière, pour leur dire que finalement Manu laisse une histoire incroyable?
Tout d'abord, je vais demander à notre pays, mes compatriotes, que le confinement ne les amène pas à effacer l'image de notre école qui est partie. Qu'ils gardent encore ce souvenir et qu'ils attendent qu'un de ces jours, ils vont écouter le son du clocher qui va rappeler que Manu est toujours là pour vous. Qu'ils attendent avec beaucoup d'écho l'annonce d'un événement à l'hommage de Manu. C'est leur fils, c'est leur frère, c'est leur papa. Le confinement ne peut en aucun cas nous amener à oublier Manu et attendre lui offrir un hommage à sa dimension. Et après le Cameroun, le monde entier qui peut se veiller n'aura pas tort de construire l'hommage de Manu Dibango à un événement.
J'ai envie justement, avant qu'on te donne une partie de la route, d'écouter un morceau qui est magique. C'est un morceau qui figure dans l'album Camer All Star. C'est un morceau enregistré au studio Davou après notre escale dans la Marera Boutique. Lorsqu'on parle de Dikosa à la Cameroun, on pense évidemment à Pan, Eléum, Emmanuel, à tant d'autres. J'ai envie d'écouter parce que finalement c'est un lien indéfectible avec ce qu'il a toujours aimé, avec la source. Et puis sur le coup, j'ai envie de te demander, mais pas en français, mais en Douala, de nous dire quelque chose, de lui dire quelque chose, à lui.
Amano Amtudo, Nobadi Kaseowa, que Dieu t'accueille. Parce que tu as beaucoup combattu pour cette danse du Makossa au Cameroun. Et tu n'avais jamais vu le combat finir. Jusqu'au jour où tu as eu l'idée de planifier un meeting porte entre tes petits frères, Henri Jor, Saleh, Benadale, Guy Songhain, Chalodi Panda, Ruth Koto, il y avait beaucoup que j'ai oublié. Yves Njok, j'ai pu t'appeler Sangeno. Eh bien, c'était ton rêve, et c'était un rêve, un vrai. Parce que grâce à ce plan, grâce à ce meeting pot, le monde entier a aimé la musique du Makossa et son histoire.
Nassom, Nassom Dita.
Mbappé, Nassom, Braza.
Extrait de l'album Camer All Star, une belle aventure du Doyen Manou. Maraboutique solaire extraordinaire, maraboutique incandescente, parce que nous avons avec nous Fire Tang. Quelle joie de te retrouver, mon frère. Comment vas-tu?
Je vais très bien. C'est vrai que le deuil de Manu nous a un peu court-circuité, parce qu'en réalité, on était en pleine activité. Et on a été frappé de plein à l'aile droite de l'avion. Donc on essaie de maintenir l'équilibre pour faire atterrir l'avion, le réparer et redémarrer.
Tu avais un rapport très particulier avec Huston, un rapport non seulement familial, un rapport aussi, je dirais, très profond, dans une dimension de recherche quand il s'agit de la musique, des arts en général. Est-ce que tu viens de la première fois, de votre premier échange?
Ah ben là, je vais toujours me souvenir de notre premier échange, parce que en fait, Manu, c'est aussi un détecteur de talent, très très fort. Il avait une expression, c'est il disait, je connais les meilleurs. Je connais les meilleurs, je connais tous les meilleurs. Alors, Manu a très vite remarqué que j'étais spécial. Et il a, un jour, il m'a interrogé sur d'où j'ai grandi, comment j'avais grandi et d'où et comment j'avais fait. Et quand je lui ai expliqué ça, il m'avait dit, il trouvait que j'étais assez mystérieux, mais maintenant que je l'ai expliqué de comment j'ai grandi, il a compris. Il a compris que j'étais un Camerounais qui a grandi au Cameroun, mais pas avec les habitudes des Camerounais. C'est ça qu'il avait compris.
Est-ce que, d'une certaine façon, il ne s'était pas retrouvé en toi, dans le sens où vous êtes tous les deux des voyageurs, vous êtes tous les deux des explorateurs, vous êtes curieux de tout, et surtout, vous revendiquez une certaine liberté.
Alors là, ça c'est une chose que j'étais en train de raconter tout à l'heure au grand frère Cheikh Tidiane. Manu, une fois, j'avais remarqué qu'il avait beaucoup d'amitié et je ne comprenais pas pourquoi tout le temps qu'il me voyait, il était très content. Et un jour, il y a Jacques Matinet qui est venu à la maison chez moi.
Avec son impère.
Oui. Et il a vu comment j'étais installé et les choses, comment je faisais. Et il m'a dit, ah, je comprends pourquoi Manu t'aime beaucoup. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, tu le ressembles quand elle était jeune.
c'est exactement ce que j'allais dire, parce que finalement, vous avez été frondeurs tous les deux par rapport à votre famille, par rapport à une trajectoire qu'on a voulu vous tracer, et vous avez aussi eu un côté insaisissable, parce que finalement, dans ton style, même si les gens veulent uniquement te cantonner à l'afrobeat, moi j'ai parlé avec toi, nous avons parlé de Bikoko avec toi, tu as une culture immense, est-ce que c'est pas ça aussi qui a créé tout de suite une sorte de fidélité? Parce que moi, quand je te retrouve avec le Don Manou dans la Maraboutique, on a l'impression que vous êtes laissé la veille, même si ça fait des mois.
Alors nous avions un comité de réflexion, Manu, Blaise Ndjaye et moi, et on se retrouvait toujours entre les émissions pour discuter dessus des sujets importants, des réflexions importantes sur la culture, la musique africaine, le devenir de la musique africaine, ce qu'elle était, on faisait des analyses. Et tout le temps, nos analyses concordaient, la manière, les résultats de nos analyses concordaient. Et nous arrivions aux mêmes solutions. Donc ça créait en nous, très vite, on avait des acquaintances, hein, comment dire,
des acquaintances.
Des acquaintances qui nous permettaient tout d'avancer très vite. Et nous échangeons beaucoup, il m'a appris tellement de choses. Et lorsque j'ai remarqué que ce que je lui disais, il tenait en compte, mais c'était comme du miel dans le cœur, parce que ça nous a permis de consolider un mur armé de une machine de guerre.
Vous aviez aussi quand même des débats assez enlevés, parce qu'on va pas se mentir, les échanges au micro avec Inspecta, toi, le Doem, à nous. Vous revenez sur un livre, sur un film, sur une période hystérique. L'art de la contradiction chez le Doem Manou, c'est-à-dire le fait de chercher quelqu'un, chercher la contradiction.
Ah oui, ça Manu, il adore ça parce qu'il pense que avec ça, c'est constructif. C'est constructif, c'est-à-dire que parler d'un sujet, par exemple, qu'il a envie de faire, confronter ça aux spécialistes et avoir et reconforter et sentir reconforté, pour lui, c'était quelque chose de... stimulant. Ça lui donnait des convictions. Et ça nous aidait beaucoup.
Est-ce qu'il y a un morceau, un titre, une chanson, pas forcément de lui ou de toi-même, qui le... J'allais dire portrays en anglais, c'est-à-dire quelque chose qui le décrirait. Est-ce que tu penses à une chanson quand tu penses à lui?
Ce que je vais dire qui m'a touché dans nos relations, un jour, nous avons monté un projet EDMA, l'école de mes ancêtres, sur les musiques traditionnelles camerounaises. Je suis allé et j'avais enregistré beaucoup de musiques camerounaises. Et un jour, on s'est donné rendez-vous pour écouter. Mais il est venu ce jour-là, il était abattu par beaucoup de problèmes. Et à un moment, il s'est assoupi. Il m'a demandé de lui faire donc écouter les trucs. J'ai mis ces musiques traditionnelles, les musiques bassa, marongo, tout ça. Il écoutait les sons des cloches. À un moment, il s'est assoupi. Et il a dormi pendant 5, 6, 7, 10 minutes. Nous étions là et il s'est réveillé. Et il m'a dit, Charles, c'est ce que j'écoutais quand j'étais un enfant. Quand j'étais enfant, ce sont ces sons. Je te remercie beaucoup, ça m'a régénéré. Moi, j'étais en train d'attendre qu'il apprécie le travail qu'il a fait, mais il s'est senti enrichi et, régénéré par ce qu'il a écouté. Et ces chansons-là j'ai pas encore eu la possibilité, nous n'avions pas eu la possibilité de les mettre dehors, parce que ce sont nos projets que nous avions. Je continue à les écouter tout seul, mais bientôt ils seront dehors et les gens comprendront pourquoi ils pouvaient s'assoupir en écoutant ces chansons. Donc ces chansons, ces musiques me font beaucoup plaisir. C'est des musiques de chez nous qui n'ont pas de nom, mais qui appartiennent à tout le monde.
En tout cas, c'est un beau propos de Fire Tong avec nous dans cette Maraboutique assez hors du temps. On va se faire plaisir peut-être en écoutant un extrait de cet album que les gens appellent B-Sides. C'est un album où le Doem Manou ne joue que sur ses marimbas, où il n'y a pas de saxophone. C'est d'ailleurs de cet album que sont extraits les notes de Dakar Streets qui fait notre générique dominical. On va l'écouter, mais tu promets que tu vas venir quand même dans la Maraboutique, dans les studios.
C'est le chemin. c'est le chenou. Toujours. Et quand tu le souhaites, quand tu le souhaites, c'est le chemin. Je suis un prisonnier de ça. Nous sommes, et comme il a toujours dit, nous devons. Nous sommes choisis pour ça, ce n'est pas d'autres personnes. Ça n'a pas été donné à d'autres personnes. Mais ceux qui ont été choisis pour ça, ils ont le devoir, ça devient un devoir. Un ministère, une œuvre, une vie.
Un sacerdoce.
Un sacerdoce, ça c'est ça, Salomon, un sacerdoce. Et nous continuons à porter le sacerdoce et à veiller en sorte que l'authenticité, comme eux-mêmes, lui-même, Manu a vécu toute sa vie, a montré. Par sa vie, tu peux reconnaître l'Afrique, même s'il n'a pas vécu en Afrique. Si tu veux connaître l'Afrique en Amérique, tu veux connaître l'Afrique en Europe, tu appelles Manu Dibango, tu écoutes ses œuvres et tu as l'Afrique. Et si tu veux voir dans sa propre vie, tu peux aller fouiller, tu vas trouver l'Afrique. Et ça, c'est l'exemple, le meilleur exemple qu'il a pu donner aux Africains. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ce monsieur a donné sa vie aux Africains, aux Noirs. Et il a remis ça avec amour. Et je souhaite que les Africains, la nouvelle génération, puissent avoir un regard sur ça. Parce qu'au-delà de l'avoir rencontré par ses œuvres, chacun peut devenir puissant.
Merci à toi.
Merci, Robert.
Titre signé du doyen Manu. On marque une pause sur Africa Radio et on se retrouve dans un instant pour la suite de ces retrouvailles chez Papa Groove.
Le dimanche, c'est Manu Dibango
sur Africa Radio.
Africa Radio en mode retrouvailles ce dimanche matin, des retrouvailles chez Papa Groove dans la demeure même du doyen Manu Dibango avec des convives, des parents, des amis qui l'évoquent et tout de suite l'incroyable inspecteur Makossa Blaise Djeoya.
Dans la Mara boutique, il se passe toujours quelque chose, c'est toujours ce lieu de rencontre que nous aimons et dans ce lieu de rencontre où on bavarde, où on échange, il faut parfois aussi des lumières et des éclairages et notamment celui de Mondoin, l'inspecta qui est bien en place. Bonjour.
Bonjour fils.
Ben, déjà, c'est une bonne chose de te retrouver là. Juste avant qu'on prenne le micro, tu me disais, mais comment tu vas faire avec cette ambiance sonore, avec tout ça? J'ai presque envie de te dire, est-ce que toi, dans tes échanges avec le doyen Manu, ce cadre où on bavarde, où on échange, il a déjà été absent? Parce que moi, j'ai toujours l'impression d'un bouillonnement.
Chez moi, c'est absent. J'ai comme mes deux frères à côté là. Je ne me réunis jamais d'un point identitaire dans un comité ethnique. Quel que soit, fût celle de mon père ou de ma mère. Est-ce que je vous ai répondu?
Cette communauté, s'il fallait dire la communauté de Manu Dibango, ce serait laquelle? Ça, c'est une question qui me vient.
Dibango a été élevé par une mère de Daido, qui est une ethnie de quatre ethnies qui gouvernent Douala, mais par un père Yabassi, qui est un peu une sorte de mélange, quoi, de culture bassa et de Douala. Sauf qu'il a l'honnêteté de dire que je ne les ai pas vus. J'ai grandi avec la famille de ma mère. Mais son nom, toi, tu dis Dibango. Les bongos, c'est l'alternation allemande pour des tétés d'ébène.
Ça rappellera quelque chose à Florence, que l'on embrasse d'ailleurs. Et je parlais de cette communauté familiale, ce clan, mais il y a aussi une communauté culturelle. Parce qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le grand défi qui a toujours été celui-là, Manu Dibango, inclassable jusque dans cette communauté culturelle. Les francophones, à un moment, se l'arrachent, les autres se l'arrachent. Est-ce qu'il appartient à une communauté ?
Il est inclassable dans son évolution. Mais ses débuts, c'est l'église protestante allemande qui a fait Bach, qui a fait Beethoven, etc. C'est celui qui m'a prouvé qu'une moitié des hymnes africains nationaux de l'indépendance sont en fait des interprétations de la musique classique européenne allemande.
Notamment ce fameux hymne, enfin l'hymne oui. britannique.
Oui, donc le fameux hymne, donc cela veut dire que nous sommes ici dans des circonstances maintenant de tamponnement, de rencontre, de qu'est-ce qui va naître après. Vu le palais africain, justement, on nous a tués, on nous a menti, on nous a volé, on nous a baisé par derrière, etc. Lui, il t'a dit que non. Ils ont aussi fabriqué des choses sur nous, surtout dans la musique. Ce n'est pas qu'ils les aiment, mais ils respectent l'histoire. Chez nous, j'ai vu les respecter l'histoire quand c'est ce que l'histoire nous a fait tellement mal. C'est avec lui que j'ai appris, et ce n'est pas l'UPC, ce n'est pas le gauchisme. J'ai appris que les histoires culturelles sont souvent des histoires d'échange. Elles sont très bizarres en général. Par exemple, combien de Français savent qu'en 1944 ici, il fallait être à Brazza pour penser la liberté ici.
La capitale de la France libre.
Dibango m'a appris que c'est très souvent comme ça, dans ces rencontres-là, que les familles politiques définitives se font. Donc il m'a appris à comprendre, non pas être africain, mais comment l'être humain se fabrique. Ça allait au-delà de l'Africain.
Moi, j'ai eu la chance, le bonheur de te retrouver avec le Doua Manou dans une sorte de deuxième ou troisième épisode. Quand vous arrivez dans la maraboutique, généralement, il y a eu un avant, c'est-à-dire il y a eu un échange avant. Il y a un moment qui m'a énormément marqué, c'est quand tu arrives et que vous arrivez au studio pour évoquer Pushkin. Et j'ai découvert une dimension du Doua Manou que moi je ne connaissais pas, qui était très féru d'histoire.
Combien d'Africains ou Américains qui t'écoutent savent que tu as grandi en France ? Ils savent d'où tu viens, mais ne savent pas que c'est ici que tu as décidé de devenir journaliste, écrivain, etc. Il est possible que si tu es resté au pays, tu serais musicien ou prof d'université. Puisque toi, tu as fait études de journalisme. Or, les études de journalisme, c'était une technique, c'était une méthode. Tes sujets n'ont rien à voir avec les gens avec qui tu as été à l'école. C'est la même chose. C'est grâce à lui que j'ai appris à lire ça. Je n'ai pas compris que l'Africain actuel est toujours en train de se fabriquer. Et toi, tu es la preuve pour moi parce que j'étais connu après les études. J'étais connu en plein chez d'autres. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un qu'on écoute aux Antilles, aux États-Unis, en France, en Afrique. Toi et moi, on profite de ça aujourd'hui. Mais en vérité, c'est que c'est ce phénomène qui est plus important à expliquer aux êtres humains que l'indépendance ou la libération, machin et tout. Cela veut dire que le savoir ou l'amour précède ou vient après la politique. Et moi, je t'ai connu à cause de l'amour du savoir, parce qu'il m'a expliqué qui était son père. Il m'a expliqué comment on l'a nommé. Qui va savoir ? On va te dire qu'en fait, le français en école, ils vont dire que toi, mon père, comment on dit là ? Quand tu mélanges tes intérêts avec.
Intérêt.
Il faut que le public qui écoute ne sait pas que ce monsieur m'a raconté comment il a grandi en France. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas pourquoi lui, on parle de Dibango. Je lui reproche ça, celui qui m'interroge. Est-ce qu'on peut parler de toi ?
Non, de aujourd'hui,
tu es
non.
Devenu dans la, journaliste dans... écrivain en France,
oui, non,
c'est
mais,
le sujet.
Oui, non, mais il y a bien, il y a quelqu'un d'ailleurs qui est mon papa, qui est de la même génération que Dibango. Ouais. On a souvent parlé de ce rapport justement avec l'Afrique, ce perpétuel débat. Est-on africain ? Est-on français ? Est-ce que le Doua Manou, et là je le dis, le Doua Manou finalement, ce débat-là, est-ce qu'on peut dire qu'il a très vite dépassé ?
Oui, oui. Le premier qui me l'a expliqué, c'est celui-ci.
Heidi.
Ou Heidi, parce qu'il avait un problème, il expliquait lequel. Le deuxième, c'est, tu l'aurais trouvé seul, c'est Mamadou Konté.
Africa Fête.
Lui qui chante Béranger. À partir de là, moi, je pense que tu étais déjà là, même si tu étais jeune, et que tu connaissais cette chanson. Maintenant, tu sais dans quoi ça s'est incarné. En fait, tu es la deuxième partie de cette histoire. Tu es dans la même histoire que moi, Heidi, sauf que tu es la deuxième génération qui a pris le pouvoir, qui a installé des structures faites par les Africains, même si la position n'est pas africaine. Mais en fait, ces gens nous ont préparé à exister, toi et moi. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Toi et moi, on est le fruit de ça. Donc Dibango, je le découvre, pas parce que sa musique, parce qu'il vient chez quelqu'un qui s'appelle Mamadou Konté, dont il n'avait pas besoin. C'est du coup que ce monsieur a besoin qu'on connaisse le reste des Africains, lui au moins en musique. Ça, c'est un truc que tu n'es pas dans ses chansons, que tu... Voilà comment lui, moi, on se couvre chez Mamadou Konté. Plus tard, je vais me rendre compte que ce qu'il avait compris là, les Antillais, les Noirs-Américains attendaient ça de lui. Mais moi, je n'ai pas choisi. J'étais leur objet, j'étais leur instrument. Donc tu m'as connu comme ça, je ne savais pas, je suis comme Heidi, je ne savais pas que cette histoire. Moi je suis arrivé ici pour faire mes études, j'ai trahi mes parents. Je suis venu pour faire des métiers mathématiques et d'économie. J'ai fini par faire l'histoire du monde africain et l'ethnologie. Je sais qu'Heidi est très content là. Donc j'ai trahi mes parents, je suis venu, on m'a formé en France pour devenir votre patron, votre chef de banque, de présence et machin. Donc mon père m'a dit tu es un traître, ma mère m'a dit tu es un traître, j'ai dit non. Vous êtes des chrétiens, je suis fils des chrétiens. Ils m'ont demandé pardon. Donc ici, tous les gens que tu vois ici, avec qui j'étais à l'école, il y en a qui sont morts de rire là. Les trois quarts des généraux africains, les Africains qui vont sur la Lune, qui sont patrons de banques et tout, tu les mets blés en face, qui font culotte, on était à l'école ensemble.
Mais c'est ce qui est riche justement. Et là, je me tourne vers le doyen Heidi, parce que quand on dit, c'est, on parle souvent de mémoire commune, moi je parle aussi d'histoire commune. Doyen Heidi, bonjour.
Bonjour Robert.
C'est une joie de te retrouver déjà aussi. Tu sais que, comme disait le doyen, se pense, on s'est beaucoup pensé lors des récents événements. L'histoire qu'évoquait justement l'inspecteur à l'instant, cette histoire que toi aussi tu as construite avec Manu, il y a plusieurs entrées. Souvent, il m'expliquait ça, moi je ne voyais pas ce qu'il voulait dire. Il dit, tu sais, dans une maison, il y a plusieurs entrées. Oui. Avec Manu, finalement, votre
chacun,
histoire, il y a plusieurs entrées.
Chacun a sa relation, comment il a raconté.
Une génération.
Et le truc qui est vraiment intéressant, c'est grâce à Manu, je retrouve Blaise, je suis arrivé en France en 95. Et puis, après un tournée que je l'avais eu en Europe avec Manu, en organisant les dates pour lui, parce qu'avant qu'il a fait la chanson Waka Africa, je lui proposais un projet qu'il a bien lui touché à fond, qu'il n'arrête pas de raconter chaque fois on se voit avec les potes comme ça. Et puis en tout cas, bref, et après le tournée, parce que pendant le tournée, parce qu'à l'époque j'habitais en Suisse, à Zurich. Et puis, la deuxième date de le concert, Manu il a dit, Heidi, tu as tout ça mis en place, qu'est-ce que tu fais dans un petit pays comme la Suisse? Venez en France.
C'est lui qui te dit de venir en France.
C'est Manu qui m'a dit, venez en France. Il a dit, qu'est-ce que tu fais dans un petit pays comme la Suisse? Et puis, pour moi, bon, j'étais content, j'ai un petit sou dans ma poche, je dis, pas bon, je parle Ich bin dich, Ich bin dash. Et voilà la France où je rencontrais, parce que pendant que j'étais là-bas, j'étais un peu agence artistique spécialisée aux musiques africaines. Et qui fait que chaque boîte de production qui cherche un groupe africain, il sait qu'il faut trouver tous les artistes africains à travers moi. Et puis c'est où je fais venir Relema, je fais venir Salekita, parce que c'est une boîte qu'ils ont spécialisée au reggae jamaïcain. C'est la même public en Suisse qui vont au concert africain et qui va au concert reggae. Qui fait que voilà, moi j'étais content, petit pays, tu peux prendre la tête. En plus, à l'époque, c'était pas grand chose pour établir ton boîte de production. Tu as un petit téléphone avec fax, ton numéro de téléphone et ton adresse, tu es opérationnel. Et qui fait que je rencontrais Manu dans une salle de concert de Cafloétine, je dis, et puis j'étais là devant un danseur. Et le vieux, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est touché après son bow down. Il vient directement, on m'a dit, hey, I know you, come up. Tu vois, c'est comme ça, il m'a attrapé les mains, je traverse la scène et je l'ai rencontré backstage. Et c'est vous, Manu, commencez à me raconter l'histoire de Parce que je lui dis, voilà, moi j'ai travaillé pendant 10 ans avec Fela. Il m'a dit, tu vois, on blague, avec, vous êtes tous les petits jeunes là, têtus autour de Fela, etc., etc. Avec son magnifique rire qui nous montre toujours, toujours aujourd'hui, parce que si Manu il est là, sa voix là, son gros lit là, ça allume tout le monde, ça a tout.
Mais c'est une histoire qui a été donc très spontanée, et puis ensuite vous êtes découvert, parce que souvent lui disait on s'est connu au 421. C'est vraiment une expression française, il dit, c'est-à-dire on s'est connu au fur et à mesure. Il y avait l'immense respect, il y avait l'amour de la musique aussi, le respect des ancêtres que vous avez beaucoup cultivés. Je le disais tout à l'heure avec un spectacle, les gens voyaient Manu Dibango comme quelqu'un de très francophone, francophile, très français au niveau de la culture. Mais Doyen a dit, il faut rappeler qu'il était aussi très curieux de la tradition.
Manu, il est très très ouvert à, d'abord. Si on voulait comprendre, à mon avis, de Manu, on voit que c'est quelqu'un qui a grandi en Europe sans vraiment le culture africain qui nous a porté. Moi, j'arrivais en Europe à l'âge de trentaine. Lui, il était arraché de le continent à sa jeunesse. Bon, par contre, il n'a jamais arrêté à cultiver tout l'amour qui vient de le continent, qui vient de... C'est comme les Noirs américains. Bon, par contre, lui, il a l'avantage qu'il parle la langue. Parce que souvent, quand il parle, il voit son Camerounais comme partout. Maintenant, Nayenge, Madame Macha, je ne comprends rien, moi. Bon, c'est l'amour que le vieux il mis dans son truc, tu comprends tout ce qu'il voulait dire.
Est-ce qu'on peut dire que son énergie, son carburant, après avoir fait le tour du monde, parce qu'il a vécu aux États-Unis, il a vécu à Bruxelles, il était partout, est-ce qu'on peut dire que finalement l'Afrique est un peu son carburant, son énergie secrète?
C'est le moteur. C'est même pas carburant, c'est le moteur de Manu. Parce que comme je te essayais de te dire, Robert, il a été arraché à l'âge de 14 ans, tu es pas mourir. You are not right. Qui fait que Manu pourrait arriver en Europe à l'époque et devenir un Français qui ne voulait même pas. Regarde, nous tous chez lui aujourd'hui. 90% on est noirs autour de lui. Antillais, un machin. Bien sûr, les Français qui sont parmi nous. C'est ça que je dis. Moi, je ne sais pas. Aucun passant qui peut questionner. Regarde, il a même choisi. C'est ça son exigence. Manu, il était exigé avec lui, même dans tout ce qui... Des fois, il s'engage dans quelque chose, tu sais, quelqu'un a exigé avec lui-même. Moi, je m'en souviens bien, et m'en tourner avec lui en Suisse. Tout de suite, il est allé jusqu'au bout. Il m'a dit, la seule chose qu'il dit, qui peut m'arrêter de finir cette tournée, c'est ma femme Coco, elle est en train de me passer.
Tout à fait, elle était pas tellement bien.
Voilà, et si on dit qu'elle est malade, j'arrête cette tournée. Et heureusement, on a fini la tournée et d'autres 3 mois après, elle est décédée.
Tu parlais de ce lien, de toutes les expériences que vous avez vécues. Il y a aussi une expérience qui vous lie, un capital culturel qui vous lie. Moi, la première fois que tu es venu à la radio, quand il t'a présenté, il m'a dit, voici Heidi, c'est un des gardiens du temple. Quand il dit gardien du temple, et il m'a parlé de cette histoire avec Fela, il m'a parlé de tout cela. Et il avait cet attachement aussi à la culture qui est la tienne, à ce Nigeria, à ces percussions. Il en parlait avec beaucoup de joie et de plaisir.
Rappelle-toi chaque fois, la première chose qu'il rappelle Manu, la première chose qu'il rappelle Manu de Nigeria, c'est la musique de King Fonyade. Avec le tombeau, et avec le tombeau de King Fonyade.
La juju.
La juju musique. C'est le truc. C'est le truc qui l'a motivé et ça monte aussi. C'est où je reviens encore. Voilà, malgré son parcours dans le jazz, dans le music occident, il a toujours son racine. Il a cette base qui lui donne la force. Cette base, regarde, Charlie te descriptait, la première chose qu'il te donne, c'est le bitacola, c'est le cola amer.
Que vous avez partagé tout à l'heure avec Cheikh Tidiane Seck, avec Ray, avec tout le monde.
C'est ça, Manu. En plus, il le fait vraiment, il te chatouille les mains, aussi à la manière de pays. Bon, quelqu'un qui l'a grandi encore en Europe, moi, je ne vois pas comment on dit en anglais an embodiment of African, embodiment of the culture African.
Une incarnation de la culture africaine. Il y a aussi, pendant cette période qui a été finalement une période très dense, on a parlé de Maurice Kanté, on a parlé évidemment aussi de Tony Allen. C'est arrivé là encore, c'est un autre coup sur la tête, parce que, et finalement, ils appartiennent à l'univers, aux éléments. Et ils avaient un profond respect. Quand je les ai vus se rencontrer, Papa Manu et Tony Allen avaient... ce sont deux personnes que l'Afrique, l'Europe, du moins à qui l'Europe a ouvert les bras, mais ça n'a jamais changé. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils venaient à peine d'arriver sur le sol de France. En pensant à Tony Allen, et qui a d'ailleurs l'album avec Jude Masekela est sorti au moment où Tony Allen partait. Ça aussi, ça a été un moment, j'imagine, aussi très difficile.
Musicalement, Tony Allen, pour moi, c'est autre chose. Parce que on ne peut pas le mettre au même bateau comme Manu, d'abord.
Tout à fait.
On ne peut pas le mettre Tony Allen dans le même bateau parce que Manu, pour moi, avec ma connaissance, Manu, pour moi, il y a trois personnages artistiques, musicales, qui ont vraiment représenté la musique africaine chez l'Occident. Il y a Manu, il y a Fela, il y a Marie Mekeba.
Absolument.
C'est grâce à les trois là, la différence s'est faite là, lui il a resté au continent pour arriver à avoir son recognition. Ce n'est pas le cas de Maria Mekeba et Manu. Ça c'est une grande différence qui l'ont écarté. Bon, sinon, ils ont la même génération qui ont amené la musique africaine dans le frontière. Par contre, qu'est-ce qui concerne Tony Allen? Jusqu'à sa vivant, je le dis en face. Moi j'aime pas la représentation qu'ils ont au niveau marketing présenté Tony Allen en Europe. Parce que des gens comme ton génération, vous êtes journalistes, vous suivez qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on vous raconte. Tu vois, Manu, pour moi, excusez-moi, Tony, pour moi, dans ce sens-là, pour moi, c'est exagéré.
Ils ont refait un package marketing.
Un package marketing de Tony Allen qu'ils ont présenté comme collaborateur de Fela, qui n'est pas vrai. Il y a tous les bouquins aujourd'hui qui racontent. Même avant la disparition de Tony, son manager Eric, qui l'a concocté tout ça, il était obligé à admettre sur Facebook. Parce que pour moi,
ça n'enlèverait en haut.
Voilà, je n'enlève pas la côté feeling. Parce que à côté feeling que Tony Allen il a joué. Si nous tous rendons hommage, rendons notre respect à Manu aujourd'hui, c'est parce que qu'est-ce que Manu nous a apporté chacun entre nous. Manu, c'est pas quelqu'un que si tu lui rends service, il s'est pas dit « Ah, grâce à un tel, je suis un tel ». Grâce à un tel, pour moi, ça c'est un bon symbole. Malheureusement, ce n'est pas le cas de Tony Allen, excuse-moi avec mon expression.
C'est tout simplement une vérité aussi, et qui plus est, toi tu as l'autorité pour le dire et pour le faire. S'il y avait un morceau d'ailleurs de Fela que Manu aimait beaucoup, moi il m'a fait découvrir des morceaux comme Open, il m'a fait découvrir ses chansons différemment. Je les avais, mais je ne les avais pas écoutées comme ça. Et il me disait, écoute bien l'évolution, écoute bien. Il m'a montré une photo de lui avec Fela, assis chez Fela, à Lagos. Il m'a dit qu'ils avaient eu des discussions vraiment très profondes avec Fela. Aujourd'hui, quelque part, qu'est-ce que toi tu retiendrais de Manu Dibango s'il fallait aujourd'hui décrire en un mot? C'est très difficile, mais s'il fallait retenir
c'est
un mot.
C'est difficile à décrire Manu dans un mot. Il faut raconter parce qu'il y a plusieurs aspects de Manu. Il y a Manu rigoureux qui rigole pas. Voilà, c'est pourquoi il ne mêle pas dans le business. Il dit, je ne suis pas un businessman. Tout ce qui est business, il le compartmentalise à sa place. Bon, Manu l'aide. Manu de man. Manu de papa gouvre. C'est autre chose. Manu papa gouvre, ça ressent toujours dans mes oreilles jusqu'à demain, jusqu'à l'éternité. Ça, c'est son gras, rigole. Ça, c'est joie de vivre. Pour moi, c'est le joie de... J'arrive même pas. Bon, tout le... C'est ça qui m'outille. Quand je suis allé à Père Lachaise où il est enterré, je vois l'image de Manu dans tout ça, dans ma tête. Bon, la seule chose qui me manque, c'est le rigole. Là. Ça, c'est... On peut pas. J'espère qu'un jour, on va voir la technologie où on va arriver dans son tombeau et appuyer sur son tombeau et sa voix est là et va ressortir de son tombeau.
Mais on l'entend encore dans nos oreilles et dans le cœur.
Oui, dans notre corps. C'est pas pareil.
On va écouter ce morceau, justement, Open and Close de Fela, en lui faisant un grand clin d'œil. Et comme je le disais à Fire Tongue, à l'Aspecta, tu viendras dans les studios, à la radio aussi, pour qu'on continue bavarder, parce que il y a aussi beaucoup de musique que tu vas nous faire partager.
Voilà, il y a plein de choses à raconter à travers Manu de Fela. Il y a plein de choses à raconter de notre, parce que si on est invité aujourd'hui, on est considéré comme des gens un peu proches à le vieux, quoi. Et on a partagé un bon moment qu'ils sont inoubliables.
Voilà, il a dit inoubliable, c'est peut-être le mieux qui résume le mieux le Doyen Manu. Merci beaucoup, Doyen Eddy.
Respect my big brother Robert Breza. Et on est là, Manu, il est là. Bon, on attend seulement la chose qu'on ne peut plus avoir, c'est son rire là. Même si on se rappelle de tout, on voulait vraiment. I wish I can hear that his voice again. I mean, I know I can never. And that, c'est ça qui me fait pleurer. Bon, en même temps qui me réjouit. Parce que Manu, il a vécu. This is a man that lived what he wanted to be. C'est l'homme qui voulait vivre. Qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'il voulait être. Et il a vécu ça jusqu'au bout. Malheureusement, le coronavirus, il a récupéré une partie qu'on attend de plus. Parce que moi, un mois avant sa disparition, en blaguant entre nous, je dis, Manu, tu vas finir comme Mandela de la musique africaine. Et il a fait son rire là encore. Il m'a dit, ah, on dirait que ça va être là. Bon, le putain coronavirus là, excuse my expression. I think it is destiny.
C'est le destin.
C'est le destin. On le laisse comme ça parce que moi je veux Manu, il était encore la force. Et il était là. Si cette maladie n'est pas passée auprès de nous, je pense Manu il sera là. Comme Mandela, il était là jusqu'au bout. Enough respect.
Fela sur la radio africaine où ce dimanche nous partageons avec vous les retrouvailles des amis de Papa Groove. Dans un instant, l'information puis la suite de cette émission exceptionnelle enregistrée chez le Doyen Manu Dibango avec au micro entre autres Étienne Mbappé, Valérie Bellinga. À tout à l'heure.